Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Bonjour François, bonjour Mélina.
Bonjour. Salut.
C'est une journée spéciale. Pourquoi François?
Parce que le soleil est sorti.
Non, parce que c'est le 80e épisode de Cinébrunch.
Oh, mon Dieu. Oh, j'ai des ballons qui tombent du plafond.
Eh oui! Bon, j'ai pas pu résister, hein. C'est un classique à Cinébrunch,
oui,
on fête en grand.
On fête tout le temps.
Et oui, c'était ce 80e épisode. François, t'étais là au 50e, je pense.
Oui, j'étais là, je me rappelle très bien.
C'est beau, hein.
Mmh, on vieillit vite quand
même.
Les
choses se passent tellement vite.
Tellement.
Donc, merci à tous nos auditeurs d'écouter Cinébrunch semaine après semaine, mois après mois,
année après année.
et voilà, merci à tout le monde qui nous écoute en direct ou qui nous écoute sur Internet ou peu importe. Et en rediffusion le mardi, notamment.
Ou à travers la porte pendant l'enregistrement. Ça, c'est juste louche.
Ça, c'est différent. Mais dans tous les cas, c'est ça. Merci à tous de nous suivre. Et j'en profite pour vous dire que, pas parce qu'après 80 épisodes, on a envie de prendre une pause, mais parce que la semaine prochaine, samedi, sera le Radio Don de CFLX. Nous prendrons congé, donc pour laisser la place aux gens plus importants que nous, qui vont récolter donc, des fonds pour la station, pour CFLX. C'est évidemment des gens qui veulent devenir membres. Ce sera l'occasion pour vous de soit vous présenter, soit téléphoner, ou soit de faire ce que vous aurez à faire. Donc, samedi prochain,
Ça va être la fête de CFLX un peu. Ben, pas la fête de CFLX, mais un peu le... Ça va être la fête chez CFLX.
Ça va être la fête. Donc,
aujourd'hui, on est dans le thème, c'est la fête à Cinébrunch.
Donc, voilà. Donc... c'est ça. Mais non, c'est ça. Donc, et je vous invite à donc devenir membre de CFLX si vous ne l'êtes pas déjà. Ce sera l'occasion pour vous, donc, la semaine prochaine, de faire tout ça. Et nous, on reviendra donc pour vous la semaine suivante pour la continuation de notre saison de Cinébrunch. Voilà, c'est tout pour ce blabla. Aujourd'hui, au programme, qu'est-ce qu'on a? Bien, évidemment, hein, on parle des belles choses. Aujourd'hui, notre gros sujet de la deuxième demi-heure sera un sujet intéressant, un sujet qu'on n'a pas souvent le temps de parler, mais qui va être une concentration de plaisir. On va parler des mauvais films. Et en fait, on va discuter de qu'est-ce qui fait un mauvais film. Pour nous, chacun, on n'a pas les mêmes opinions. Hein. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens ici qui aiment beaucoup des films que je déteste et vice-versa. Donc, ça sera l'occasion pour nous, en même temps, de donner quelques idées de films qu'on n'aime pas ou de discuter de, pour nous, c'est quoi un bon, un mauvais film, tout ça. Donc, tout ça en deuxième demi-heure d'émission. Et d'ailleurs, vous écouterez attentivement parce que parmi les trois films que je vais nommer dans un instant, qui seront critiqués par moi et mes collègues, donc les films Les Arnaqueuses, Les Invisibles et Détective Pikachu, hein, au cours de cette émission.
Oui.
Il y en a un, semble-t-il, qui est très mauvais. Donc, je ne dirai pas qui, hein, mais si vous écoutez attentivement, vous saurez lequel est le mauvais film.
Il va falloir rester à l'affiche.
C'est ça. Qui a inspiré, finalement, cette chronique de deuxième demi-heure.
Oui,
on est
absolument.
Thématique.
C'est tout à fait thématique. Donc, merci. Et voilà, ben, en fait, commençons tranquillement, François.
Oui, deux nouvelles aujourd'hui.
Oui,
c'est la fête hein, partout. Premièrement, le 25e film de James Bond, qui est en train d'être tourné présentement, a dû être arrêté parce que Daniel Craig a subi une petite blessure. Oui, ils ont dit que dans une chute, il s'est tordu la cheville, c'était comme, je comprends pas comment vraiment la scène s'est effectuée parce qu'ils disent qu'il était en train de faire un sprint dans une scène de chute. Je comprends pas trop comment tu es capable de
courir
chuter,
horizontalement.
Oui, il doit courir. Ça, exactement. Comme il volait, ça doit être Iron Man. Mais c'est ça. Donc, ce film-là, on s'entend qu'il y a eu beaucoup de déboires déjà là. Hein. Ouais. Il n'est pas encore sorti, puis on a déjà été obligé de changer de réalisateur. Ça a été compliqué.
Ouais.
Donc là, un autre.
Il y a quelqu'un qui ne voulait pas en faire à la base. Là,
oui,
ça a changé. Donc,
exactement.
Peut-être qu'il ne voudra plus maintenant.
Peut-être qu'il ne voudra plus. Peut-être qu'il va falloir changer. Va falloir rester aux aguets.
Oui.
Peut-être qu'ils vont chercher un nouveau James Bond bientôt.
Alors, François, c'est le moment de préparer ton CV.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il va falloir voir ça. Et il y a aussi, comme je vais critiquer, Détective Pikachu, mm-hmm. Un peu plus tard dans l'émission, ben, il y a une nouvelle rattachée à ça, parce que dans le fond, ils ont présenté dans un film, dans un cinéma à Montréal, ils ont présenté le mauvais film à la place du Détective Pikachu. Ils ont mis un film un petit peu plus d'horreur. En fait, ils ont mis La Malédiction de la Dame Blanche. Qui est qui est un petit peu un film un petit peu plus hardcore. Puis avant, les bandes annonces allaient avec le film un peu plus hardcore aussi. Donc, ils ont présenté Annabelle 3, la maison du mal, le nouveau Chucky et la bande annonce du Joker et les kids dans la salle est un petit peu traumatisé.
Effectivement.
Ils ont grandi plus vite que
c'est
prévu.
C'est toute une génération qui va être affectée par cet événement-là.
Ah, c'est clair. Et là, ils se sont rendus compte à un moment donné, les gens sont mis à crier dans la salle. Puis là, le gars
s'est
rendu
compte. Personne pense à sortir voir les gens. C'est,
non,
c'est
ça.
Les gens pensent vraiment que
on est pris là, c'est ça. Ben, surtout quand tu regardes Chucky.
Oui, ben là, tu cries pour d'autres raisons.
Ça, tu restes là, puis tu dis, si je sors, on va me tuer.
Est-ce que tu faisais partie des enfants qui étaient là?
Non, tout à fait. Non, j'étais pas là. Mais, puis ils ont changé de salle, en fait. Fait qu'ils n'ont pas arrêté, puis ils ont changé. Ils ont dit, on va le laisser finir devant personne, puis changer de salle. Ça, moi, je trouve ça magnifique comme solution. Pour vrai, on est débrouillards.
C'est merveilleux. On ne sait pas c'est quoi le nom du cinéma. J'imagine qu'on voulait garder ça secret.
On va taire.
On va taire le secret. Oh mon Dieu, ça serait le cinéma beau bien que ça m'étonnerait qu'à moitié.
C'est réel ici.
On m'assure que ça joue pas au cinéma beau bien tout ça.
Ouais.
Donc voilà, merci François. Mélina.
Oui, ben en fait, pour les fans de Grey's Anatomy, vous savez comme moi que cette semaine, c'était la saison 15, parce qu'on est rendu à la saison 15.
C'est quand même beaucoup de saisons, ça.
En fait, ils ont battu un record cette année plus long... plus longue émission médicale en ondes, donc dépasser les autres. Et
c'est
là,
un beau trophée, ça, à avoir sur sa table de chevet.
Mais non, mais
son lit d'hôpital.
Oui.
Mais il disait, en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'actrice principale, Hélène Pompeo, disait un peu plus tôt cette année que, selon elle, ils avaient fait le tour et ils avaient raconté les histoires qu'ils avaient à raconter. Mais finalement, coup de théâtre, comme dirait Feu André Jean, ils ont décidé
il
que...
On rassure les auditeurs.
Non, c'est juste que ça fait quelques temps qu'il n'a pas occupé une chaise avec nous.
Oui.
Mais non, il est encore bien portant. Donc,
Coup de théâtre,
c'est
ça. Ça va trop loin, oui.
On a appris cette semaine que Grey's Anatomy était renouvelé pour deux saisons encore.
Deux saisons?
Donc, 17 saisons au total. C'est incroyable. Est-ce qu'on veut battre les Simpsons du côté de Grey's Anatomy? Qu'est-ce qui se passe?
Ben, en fait, je ne sais pas. Je pense que... je ne sais pas. L'actrice, elle a dit à un moment donné aussi, ben, je vais continuer tant que les fans veulent que je continue. Donc, le public est là. Les gens sont en rendez-vous. Ça reste, je pense, l'émission la plus regardée de ABC. Donc, la station de télévision, là, vous savez.
C'est pas la chanson de
Ben non, c'est ça, je voulais pas...
Jackson 5, c'est ça.
C'est ça. Okay. Donc, ouais, non, c'est ça.
Merci,
et on annonce que même il y aura du nouveau, parce que l'année prochaine, ben, ils ont sorti un spin-off, là, une petite série dérivée l'année dernière, mm-hmm. qui est à saison 2, qui se passe cette fois-ci avec des pompiers, mais dans la même ville, donc dans Seattle. Et bon, il y a déjà des personnages, des fois, qui font des petits allers-retours entre les épisodes.
OK, parce que c'est pas toutes les séries qui se passent à Seattle qui sont des spin-offs de Grey's Anatomy, là.
Non, mais c'est ça.
Faut spécifier
qu'il y avait
juste quand
des personnages.
Il pleut. Oui, c'est ça. C'est pour les pompiers, c'est avantageux.
Ouais, même la ville n'existe pas pour vrai. C'est juste un spin-off de la série télé. C'est pas... tout ça est faux.
Oui, non, mais c'est ça. Et on a dit que puisque le showrunner en anglais va devenir la main... Celle qui fait Grey's Anatomy va devenir showrunner de Station 19, donc la série dérivée. Ben, on pourrait s'attendre que les personnages se promènent encore plus. Donc, on parle qu'à chaque semaine, il y aurait des liens.
Il y aurait des liens entre les deux. Donc, est-ce qu'on a peut-être une volonté d'ici deux ans à migrer seulement vers la nouvelle série?
Je sais pas c'est quoi. Ou peut-être...
Comme on a fait avec Star Trek The Next Generation, notamment,
oui,
et Deep Space Nine.
Ouais.
Oui.
Mais je sais pas. Peut-être que c'est ça, mais c'est peut-être aussi pour s'assurer qu'on va chercher les mêmes codes d'écoute pour Station 19 qu'on va chercher avec Grey's Anatomy, parce que les gens n'embarquent pas nécessairement du premier coup dans un spin-off comme ça. Donc, c'est peut-être aussi pour s'assurer ça, je sais pas, mais ça reste intéressant parce que là, ça devient vraiment un univers étendu sur deux séries différentes, donc c'est fou, on capote.
C'est fou.
Ben c'est wow. Ça, on est heureux, on a hâte.
Ben
que...
écoute, c'est la fête,
ben,
c'est la fête.
Ça.
Oh, mais j'ai plus la chanson, c'est ah. Ça a été un bon...
Oui, ça a été un bon moment.
Merci, Mélina. Et de mon côté, je vais vous parler de Disney, hein, pour ne pas dire Walt. C'est officiel, en fait, Disney va lâcher son partenariat avec Netflix diffusera son propre contenu vidéo via sa plateforme Disney+, hein, qui n'est pas sans faire un clin d'œil à Apple, Apple
oui,
Plus et tous les trucs plus.
Ouais. Donc, j'ai hâte qu'elle commence à faire des trucs moins.
Oui, c'est pas encore à la mode. Hein,
c'est moins
vendeur. Non, c'est bien vrai.
Disney divisé.
Oh!
On va continuer. Donc, après avoir acheté les productions de la 21st Century Fox l'an dernier, Disney se retrouve en plus à maintenant posséder 60% des actions de la plateforme Hulu, originellement qui était contrôlée par, bon, évidemment, Disney, Chrome, Comcast, Fox et AT&T. Mais là, voilà, il ne reste que Disney et Comcast, à ma connaissance. Évidemment, alors que Disney prend sa place dans le monde de la diffusion, ben, c'est une perte pour Netflix qui, en plus, a reçu un violent uppercut de la part de Warner cette semaine qui a brisé le contrat de disponibilité qui le liait à Netflix. Les gens de Warner me décevront toujours. Donc, oui, donc ce contrat qui faisait en sorte que certaines séries, notamment les séries DC comme Riverdale, Legends of Tomorrow, pas sûr que c'est DC ça, en tout cas Supernatural, The Flash, Supergirls, etc. Donc, ces séries-là ne seront pas automatiquement diffusé sur Netflix comme c'était le cas. Ben, ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas du tout, va savoir. Donc, c'est ça, mais je veux revenir à Disney parce que visiblement, Disney ne nous lâche pas cette semaine. Ben, James Gunn, réalisateur de Guardians of the Galaxy, un film que je n'aime pas vraiment, sera réembauché suite à son licenciement récent qui était causé par des blagues louches sur la pédophilie et le viol sur Twitter. Il accepte donc les termes de Disney. En entrevue, il a dit « J'ai honte, mais je suis responsable de tout ça. Disney avait tous les droits de me licencier. J'ai dit des choses qui n'ont pas plu et c'est comme ça. » J'aime ça prendre l'accent un peu de...
Ben hein? Oui, hein?
Donc, ça n'était pas un problème de liberté d'expression. J'ai eu d'autres moments difficiles, l'alcoolisme, le suicide d'amis, mais c'était incroyablement intense. J'ai appris que j'avais été renvoyé et tout s'est passé très vite. J'ai cru que ma carrière était finie. Donc, on sent vraiment comme dans une série documentaire. Hein?
Oui, tout à fait. Mais je pense que ça ferait un bon film, en fait.
Ben, sans doute. Moi, je pense qu'on aurait fait un film là-dessus.
Oui.
Et sinon, quelques jours après le départ, quand il avait été licencié, donc son nom, hein, rappelons-le, James Gunn, qui peut jouer dans réaliser plusieurs films d'action avec un nom comme ça. Donc, donc, après son licenciement, les acteurs de Guardians of the Galaxy, là, on va savoir est-ce que l'arbre a parlé. Donc, Bradley Cooper, Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel et Dave Bautista avaient tous signé une pétition pour le retour du réalisateur qui sera donc de retour avec des excuses, le regard vers le sol et plus de petites blagues louches sur Twitter. Donc, voilà. C'est ça pour Disney.
Ça sera ça.
Et maintenant, voici votre ciné-brunch! Et sur cette douce musique, douce mélodie, Mélina va nous parler du film Les Arnaqueuses, c'est
oui,
ça?
Oui, Arnaqueuses, The Hustle en anglais. C'est une comédie américaine, en une autre de plus. Et c'est...
mais bon, tous les films sont un autre de plus, ah, en tout cas, oui. Mais...
Non, oui. Mais tu vas voir, en plus, c'est vraiment un autre d'un autre de plus, là, parce que c'est la refonte féminine d'une refonte. Donc, autrement dit, là, l'original de ce film-là date de 1964. On en a refait un autre en 88. Puis là, on s'est dit, ah, pourquoi pas en faire une version féminine en 2019.
Et mon Dieu, ça doit être un très bon scénario.
Ben, oh. C'est ça qui est intéressant dans la chose. Ouais. Parce que les deux films précédents, c'était Le Séducteur avec notamment Marlon Brando et Deux fils de trois petits points avec Steve Martin, Michael Caine et Glenn Headley. Ben, c'était deux hommes qui lançaient une compétition entre eux qui était d'escroquer une femme. Donc, ça, c'était les deux premiers films. Et là, ben là, on en fait donc une version féminine. Donc, c'est deux femmes qui compétitionnent pour escroquer un homme. Donc, c'est ça le thème, hein. C'est ça le sujet.
Donc, on est dans le Ocean, le dernier océan qui reprenait le concept.
Exactement.
Le Ghostbusters avec des filles. Bref, toutes ces versions un peu particulières.
Men in Black qui revient aussi.
Oui, donc cette mode étrange de vouloir renverser la... qui malheureusement ne marche pas toujours. Donc, oui.
Non, ben c'est ça. Puis je veux dire, c'était quand même une histoire qui avait connu son succès. Là, on dit qu'il y a même une comédie musicale sur Broadway qui s'inspire du film. Donc, c'était un scénario, du moins, qui avait vraiment beaucoup plu à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le refaire en version féminine. Et avant de savoir ce que j'en pense, on va aller écouter la fameuse bande-annonce.
Cette place est libre. Je vais seulement prendre un verre d'eau. Je dois garder tout mon argent pour retrouver ma sœur. Elle a été enlevée.
Elle a été enlevée?
Oui, par des hommes qui vendent des jeunes vierges blanches et jolies à des archimilliardaires.
Votre histoire me touche énormément. Comment est-ce que vous voulez?
Je vais prendre un club sandwich avec une portion de frites, deux parts de gâteau. Vous voulez du gâteau?
Non.
Trois parts de gâteau et un soda diet.
Très impressionnant.
Je suis une arnaqueuse.
On devrait faire équipe.
J'ignorais que j'étais aussi inexpérimentée avant de te rencontrer.
Penny, pourquoi les femmes sont-elles meilleures que les hommes pour l'arnaque?
Parce qu'on fait semblant tout le temps. J'aimerais
embrasser ce gars. Parce qu'aucun homme ne veut croire qu'une femme est plus brillante que lui.
Aucun cliché dans cette bande-annonce.
Ben non, vraiment, hein, aucun. Je sais pas si vous avez reconnu les voix françaises de l'actrice Anne Hathaway et Rebel Wilson. Donc, la première qui joue une Américaine, la deuxième qui joue une Britannique, hein, ça va de soi.
Bon.
Ben donc, ben c'est ça. C'est ça pour les deux actrices.
Je pense que la version anglaise était meilleure. J'avais vu la bande-annonce, ça va quand même
ben
un peu
les voix,
mieux.
Les voix marchent vraiment, pas. Là, ouais, non, ça n'a aucun rapport. Là.
Non, non, non.
C'est une des choses, en fait, qui n'a aucun rapport dans le film. mais je ne veux pas trop me dévoiler, là. Je sens que je me mouille un peu.
Je sens que tu te dévoiles
peu,
pas
là.
Mal.
Ouais. Mais non, c'est ça. Écoutez, on va parler du réalisateur un petit peu, mais vraiment pas longtemps, parce qu'il a fait qu'un film, mais c'est celui-là. Il s'appelle Chris Addison. Il a réalisé quelques épisodes d'une série. Et sinon, c'est un humoriste slash acteur. Donc voilà, il a rien de plus à dire sur ce gars-là. c'est ça qui est ça. C'est pas mal le même monde qui a écrit ce film-là, qui avait écrit la version de 88. Donc, c'est ça. On reprend vraiment le même concept. Et ben voilà, c'est un échec complet. C'est un échec lamentable.
Échec lamentable.
Et ouais, mon doux.
Et mon doux. On est rendu là.
Quand même, c'est dur comme mot, là.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu peux étayer un peu? Parce que là...
Nos auditeurs veulent savoir.
Ben,
savoir.
Ben, c'est oui, ça. Ben, oui. Pourquoi? C'est, on rit pas vraiment? Est-ce qu'on rit quand même des fois ben, jaune un peu? Ou...
En fait, on rit pas. Et c'est le seul problème du film. Et c'est plate parce que...
C'est une comédie, c'est ça.
Ben, c'est
mais
ça.
Si on l'avait classé dans le drame, est-ce que t'aurais aimé le film? En disant, genre, c'est vraiment dramatique à quel point on rit pas, tu sais. Mmh. je sais pas, tu sais.
Bonne question.
Des fois, c'est juste la catégorie, ouais. le comment on arrive dans le film, tu sais. Ouais. Des fois, on arrive.
Mais je le resterai pas, hein. J'irai pas le revoir en me disant, c'est un drame. Non, ben écoutez, c'est ça, j'ai pas vraiment. C'était
pour
long.
La science, non, tu voudrais pas aller
même pas.
Écouter.
c'est une heure et demie de ma vie. Au moins, c'est juste une heure et demie, hein, mais c'est une heure et demie de ma vie quand même que je reverrai pas. ça ne riait pas dans la salle.
Ouais. Non plus, c'était pas juste toi, là.
Non, c'est ça. Des fois, tu dis, c'est juste moi, mais pourtant, je suis un bon public, généralement, c'est ce qu'on me dit. Mais dans ce cas-là, ça riait pas. Des fois, ça faisait ha ha ha. Mais c'est à peu près tout.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous.
Ce qui s'est passé, c'est que le scénario est juste pas drôle. Le scénario, c'est parce que pour vrai, les actrices sont bonnes, la photographie est belle, le rythme est bon, je veux dire, c'est bien monté. C'est ça. C'est juste le scénario, les blagues sont pas drôles. Tu sais, les blagues de situation un peu, ça fonctionne pas vraiment. Je sais pas, on réussit pas. Je veux dire, j'étais de bonne humeur quand je suis allée voir le film cette journée-là, je veux juste le spécifier. Mais on réussit pas à nous faire quelque chose de drôle. On est ultra loin des Ocean 11, 12. Ben, le 12 était pas bon, mais du Ocean 11, en tout cas, qui était une bonne comédie. C'est sûr que, bon, les Américains ont un peu moins de talent, selon moi, pour faire des comédies que les Français, par exemple. C'est souvent moins profond. Mais même à ça, on a quand même vu des très bonnes comédies américaines qui n'étaient pas des remakes de films français nécessairement. Fait qu'ils sont capables de le faire. Je pense que là, dans ce cas-ci, c'est peut-être comment le réalisateur aussi a dirigé les acteurs, peut-être que... Mais ça marchait pas, en fait. Moi, ça me faisait juste pas rire. J'étais juste comme neutre. Je trouvais juste
Est-ce que t'étais
drôle.
Malaisé ou c'était juste neutre?
C'était juste neutre.
OK, au moins.
C'était juste comme... Les blagues, ils étaient là, mais... Je veux dire, peut-être qu'ils se sont trop inspirés de la version de 88. C'est peut-être... Je sais pas, là. J'imagine que l'humour, comme toute chose, doit évoluer...
Mais d'habitude, quand ils refont de films, en général, justement, ils jouent beaucoup sur l'humour. Là, le scénario reste similaire, mais on ajoute des gags ou des choses.
Puis des fois, des trucs encore plus contemporains, puis des références plus...
Oui. Mais là, on n'avait pas ça. Et je me demande aussi si... Parce qu'il y a quand même aussi une inversion des sexes, c'est-à-dire que dans les deux premiers, c'est des hommes qui arnaquent une femme, et là, on a des femmes qui arnaquent un homme. Donc, c'est sûr que j'imagine qu'en termes de blagues, il y a peut-être des blagues qui marchaient plus, ou du moins, tu sais...
Ouais, une blague macho à l'envers, est-ce que c'est drôle? Faudrait voir.
Ben, c'est ça.
Peut-être que, justement, ça... peut-être c'est pas, pas l'inverse drôle, de quelque chose n'est pas nécessairement inversement bon. Ou,
fait qu'on peut pas, ils peuvent pas nécessairement mettre les mêmes blagues, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été réfléchi plus loin que ça. J'ai l'impression que je sais pas, écoutez, je l'ai. Je, c'est ça. Je
pense... C'était pas bon.
Ben, c'est ça, c'était
on
pas bon.
On tous s'entendre là-dessus. Là.
Oui, oui.
Okay. Oui, puis c'est ça, ça va être intéressant de discuter un peu plus tard, justement, de pourquoi les films sont pas bons. Oui. Des comédies pas bonnes, ça l'arrive, on en a tous en tête, mais celle-là, ça va devenir quand même quelque chose de. Puis, contrairement à d'autres films vraiment pas bons, c'était pas que qu'il y avait pas de, ça n'avait pas de sens ou que c'était pas logique, c'était juste pas drôle. C'était juste, je veux dire, c'est comme faire... Je veux dire, je suis vraiment un bon public. Là, pour les gens qui me connaissent pas, là, une blague très simple me fait rire, mais là...
Ou tes blagues font pas toujours rire les autres, mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, ben c'est ça. Ça, c'est très commun, mais je veux dire, c'est ça. Donc,
mais en tant que juste histoire, là, mettons, juste... Est-ce que l'histoire est quand même intéressante à regarder, même si ça te fait pas rire?
Même pas de temps, parce qu'en même temps, c'est tu sais où ça s'en va. C'est prévisible. Okay. Fait que, tu sais, même, tu sais, il pourrait avoir des blagues. Des fois, tu sais, comme il y a des rebondissements de situations vraiment intenses ou absurdes, mais on trouve ça drôle parce que, justement, c'est absurde.
Ouais.
Mais là, il y a même pas de rebondissements de situations drôles ou absurdes. Où, je veux dire, on sait où on s'en va, puis c'est pas... Non, j'y donne un 1 sur 10. Là.
1 sur 10?
1 pour l'effort.
C'est vraiment mais, mauvais, 1 sur 10. Là.
Dire, 1 sur 10, c'est
C'est ça qui est dommage, parce que le reste, tout le reste là, qu'on évalue est bon. Mais le fait que le scénario...
C'est que ça, pourquoi tu donnes 1 sur 10?
Ouais.
Parce que ça fait en sorte que le film est vraiment pas bon, genre que mon appréciation globale... Je veux dire,
ça a descendu tout le restant, ben, parce que t'étais pas capable d'apprécier le restant à cause du scénario.
Ça va être intéressant d'en parler plus tard, parce que je pense pas qu'on critique de la même façon les films. Je pense qu'on a chacun notre façon de pénaliser un film. Et malheureusement, Louis est pas avec nous, mais Louis, qui était avec nous au début de Cinébrunch, avait eu sa propre façon de détruire un film aussi. Bref.
Mais est-ce qu'on a déjà donné des 1 sur 10?
Louis a déjà donné moins 3, je pense, à un film.
Ouais, on est déjà allé dans le négatif.
Je préférais qu'on reste dans le positif, mais dans tous les cas, 1 sur 10, ça me semble assez... en tout cas, on en reparlera tout à l'heure.
En même temps, je pense qu'on s'est fait arnaquer.
Mais je pense qu'on s'est fait arnaquer légèrement. Donc, merci beaucoup.
C'est vraiment la meilleure blague du film, celle-là, que tu viens de faire.
Oh, mais... bon, donc...
Bien que Dieu voulait, on l'aurait remarqué. Il ne vous aurait pas donné des vies toutes pourries, des jobs de merde, des enfants cons et des cancers à la vessie. Au mieux, Dieu n'existe pas. Au pire, c'est un gros connard. Mais dans les deux cas, c'est un peu l'arnaque, votre histoire.
Quelle belle chanson!
C'était en thématique avec ton film, Mélina. Donc, c'est le moment où François va nous parler d'un, sans doute le film de l'heure le plus attendu du cinéma.
Tout à fait. Et moi, ça faisait longtemps quand même que je l'entendais, le Pokémon Détective Pikachu. Parce que pour vrai, ça piquait la curiosité de bien des gens. Ça piquait la curiosité. Oh, oui. C'était électrisant dans la salle. On continue avec ça. Non, mais pour vrai, c'était fou pour vrai parce que quand on a vu la bande-annonce sortir, je me souviens très bien que tout le monde a fait « Ben voyons donc, est-ce une blague? » Genre, est-ce qu'on va vraiment faire ça? Et oui. Et est-ce que ça marche? C'est ce qu'on va voir dans la critique. Alors, oui, tout à fait. Alors, le réalisateur Rob Letterman, qu'on peut connaître pour Shark Tale, Monsters vs. Alien, entre autres, beaucoup de films d'animation. Dans les acteurs, Ryan Reynolds, Justice Smith, Catherine Newton, Bill Nighy, Ken Watanabe. Bon, en tout cas...
Là, t'es bon avec les noms, en français.
Je suis pas très bon avec les noms. Pour moi, les noms, c'est non. Alors, et voilà, on va là, on va là. Et donc, c'est inspiré d'un jeu vidéo. Et là, je parle pas de Pokémon en général, je parle du film.
Le film est inspiré d'un jeu vidéo?
Le film est inspiré du jeu vidéo Détective Pikachu qui est sorti en 2016 sur la Nintendo 3DS.
J'ignorais l'existence de ça.
Oui, exactement. Il y a peu de gens qui connaissaient ça. Donc, le scénario part à peu près de ça. J'ai pas joué au jeu, mais je me suis un petit peu renseigné. Puis, il y a quand même des différences entre les deux, mais en général, ça ressemble à peu près à ça. C'est le premier film en prise de vue réelle qui a été faite de Pokémon. Et ça, pour ça, c'est vraiment intéressant. Et on va tout de suite écouter la bande-annonce et on s'en reparle après.
Bienvenue à Rime City, un havre de paix où humains et Pokémon vivent en parfaite harmonie.
Je sais que tu peux pas comprendre ce que je dis, mais pose ton agrafeuse ou sinon, je vais t'électrocuter, ok?
Attends, tu parles?
Oh, une seconde, t'as compris ce que j'ai dit? Oh la vache, j'hallucine, tu me comprends?
Stop,
je me sentais tellement seul. Les gens veulent tout le temps me parler, mais ils entendent juste pika pika.
Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez?
Pika pika!
Ouais, pika pika pika, il est adorable.
Tu es adorable, il pisque dalle, mon pote.
Personne d'autre l'entend? Je veux pas de Pokémon, point barre. Si je te dis que je suis un grand détective,
parce que si tu veux retrouver ton vieux, je suis ton meilleur atout. On va y arriver.
Eh bien, on va espérer qu'il arrive.
Oui, tout à fait, hein, c'est fou. Donc, c'est un côté vraiment mixé, les Pokémon, avec le côté enquêteur. Donc, c'est vraiment un jeune qui essaye de savoir ce qui s'est passé avec son père, qui a disparu. Et là, il rencontre Pikachu. Pikachu qui est un Pokémon, hein? On s'entend que ça, les Pokémon, c'est pas une personne, il n'y a pas un Pikachu qui existe, il y a plusieurs Pikachu qui existent.
Est-ce qu'ils sont tous détectives?
Non, mais c'est ça, lui, il trouve le Pikachu de son père, et là, ils vont partir à la découverte pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé avec son père, et donc on va découvrir plein de Pokémon là-dedans, évidemment, et juste le fait que ça soit en prise de vue réelle, pour vrai, le mix entre des personnes réelles et des Pokémon qui sont très bien faits, pour vrai, ça vaut la peine d'aller voir ça, juste pour ça, pour les fans de Pokémon, juste pour ça vaut la peine.
Okay.
Pour vrai, c'est un rêve, c'est beau, c'est comme un rêve d'enfant de toutes les personnes qui ont déjà vu des Pokémon, puis ça, c'est un gros risque de faire ça, parce qu'il y a bien des films qui ont essayé de mixer, puis que ça s'est pas vraiment passé. Puis des
comme
films
Sonic en ce moment.
Oui, on va voir ce que ça va donner avec Sonic. Mais ils ont joué gros, mais c'est beau. Puis pour vrai, il y a eu quelques petits moments dans le film où ça m'a un peu agacé, mais il y en a tellement de Pokémon qui marchent dans la ville puis qui font vivre tout ça que pour vrai, c'est quand même grandiose qu'ils ont réussi à faire. C'est beau visuellement. Donc déjà là, si vous êtes un fan de Pokémon, allez le voir parce que c'est très beau visuellement. C'est magique. Là, si vous connaissez pas les Pokémon, est-ce que l'histoire est quand même intéressante pour vous y amener? C'est quand même assez intéressant comme histoire. C'est pas l'histoire qui va révolutionner l'histoire du cinéma. Puis c'est oui, des fois un peu OK, on sait que ça va s'en aller là, des fois.
Mais ça serait sûrement un public un peu plus jeune aussi, j'imagine. Donc, familial.
Pas tant.
Non?
Pas si jeune que ça. Pour vrai, pas si jeune que ça. Oui, il y a des gags des fois que bon, les jeunes de 6 ans vont comprendre, là, mais pour vrai ça fit plus, je trouve, pour des gens de 20, 30 ans.
Okay, les gens qui aimaient les Pokémon dans le début de la...
Je trouve que c'est vraiment plus le plus gros public cible de ce film-là. Ça joue beaucoup sur la nostalgie, mais il explique quand même pour être capable de... Pour les gens qui ne connaissent pas les Pokémon,
ils sont capables
d'apprécier quand même.
Sûr,
ouais. Donc moi, j'aime les films de détectives, donc j'ai aimé quand même. La fin, j'ai trouvé que... Puis des fois, il y a des petites affaires que tu vois qu'il y a des raccourcis un peu de comme « Oh mon Dieu, t'es capable de faire ça? » »« Ah oh, ben oui, ça règle pas mal de trucs. » Fait que, tu sais, « Ah, je m'attendais pas que ça aille là parce que je pensais pas que l'univers était capable de créer ce genre de patente-là. » Fait que des fois, il y a des petits raccourcis comme ça. Puis à la fin, j'aurais aimé ça voir plus de trucs sur certaines affaires. Mais en général, un très bon film, pour vrai. Ça valait la peine d'attendre tout ça. Et je donne un beau 9.
Wow.
Sur 10.
9 sur 10. Pour vrai. Ça compense pour
le 1
de Mélina. Ça fait 10 au total. Là.
Oui, tout à fait. Non, mais pour vrai, c'est un très bon film. Ouais. Allez vous rincer l'œil sur les beaux Pokémon. C'est vraiment très beau comme film et intéressant.
Détective Pikachu.
Belle aventure.
Merci beaucoup, François. De retour à Ciné Brunch et aujourd'hui, on va vous parler dans une 5-6 minutes, on va vous parler de nos choix de mauvais films, je vais-tu le dire?
C'était très bon comme segment.
Oui, trouves-tu?
Pour vrai? Ah, c'était magique.
Je suis content, j'avais pas de feedback. Ouais. Non, c'est ça en fait, on va vous parler de pourquoi on considère qu'un film est mauvais. Parce qu'on vous a déjà donné un top 3 il y a longtemps de nos pires films de tous les temps, jadis. Maintenant... On n'a jamais vraiment parlé pourquoi un film était bon ou pas bon. On va rentrer plus dans les détails, puis je pense que ça va nous permettre aussi d'expliquer un peu comment on procède quand on critique. Donc, tout ça dans à peu près 5-6 minutes. En attendant, je veux vous parler d'un film que moi, j'ai été voir pour vous et que je vais critiquer, le film Les Invisibles.
Vous vous souvenez peut-être de ce film-là, du nom de ce film-là, parce que c'était le film d'ouverture du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Et il est maintenant à l'affiche pour tout le monde, donc disponible en salle un peu partout au Québec. C'est un drame social ou une comédie dramatique, là, ça dépend de quoi. C'est un film de Louis-Julien Petit, et mettant en vedette Audrey Lamy, Corinne Maciero, Noémie Ilvoski, Déborah Lukumienmuena, Sarah Souko et Brigitte Si. Les noms sont définitivement aujourd'hui une difficulté, un obstacle.
Ouais, tout à fait.
Donc, pour ne nommer que ces gens-là, il y en a d'autres évidemment, le film est adapté du livre de Claire Lagenie, Sur la route des invisibles, femmes dans la rue, et on écoute tout de suite la bande-annonce.
C'est 8h, pas 7h55, je sais pas où vous êtes en train de chouiner là.
Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre.
C'est son pseudonyme, la Ticheline. Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot.
Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça?
Ah ouais, allez.
Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On peut pas continuer à dépenser sans résultat, on peut plus.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On repart.
Chantal sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider.
Moi, j'étais soignante.
Moi, j'ai travaillé dans une agence immobilière.
T'as fait ça pendant combien de temps?
Un jour.
Alors voilà. Donc, c'était la bande-annonce du film Les Invisibles, et non pas Les Invincibles, hein? Attention quand même.
Oui.
Donc, écoutez, d'entrée de jeu, on suit un groupe de femmes qui travaillent à L'Envol, qui est un centre de jour pour femmes sans domicile fixe, qu'on appelle SDF. Malgré les difficultés qui se présentent, Audrey et ses collègues veulent faire une différence dans la vie de ces femmes-là. Malheureusement, le faible taux de réinsertion socio-professionnelle des usagers, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, est tel que la survie même du centre est en danger. La survie même du centre est affectée, en tout cas, je ne sais pas trop. Heureusement, les femmes ont tous un bagage et des compétences dans un domaine ou un autre. Pas nécessairement beaucoup, mais quand même. Et je pense qu'on tire un peu là-dessus et on essaie de les aider à se trouver des emplois. Donc Audrey et ses collègues vont prendre des risques quand même importants pour aider le plus possible de femmes à trouver un emploi pour les sauver, sachant que le centre est voué à la disparition totale. Bon, c'est un beau film, c'est touchant, parfois assez drôle quand même, malgré des moments un petit peu plus dramatiques, plus déchirants, parce qu'on vit la souffrance, la solitude, l'enfer de la drogue.
Ça sent la comédie à plein nez.
On vit ces choses-là d'une façon relativement accessible, donc on n'est pas dans la grosse, dans le gros drame. Cependant, évidemment, ces choses-là existent. On peut être touché plus ou moins par ça. Il y a des moments plus drôles quand même. Donc, c'est vraiment un sujet assez inusité. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez rare au cinéma de parler de ce thème-là. Je trouvais ça intéressant de nous faire vivre la réalité de ces femmes-là, de femmes sans-abri, et de connaître les enjeux, leur univers, les intervenants, tout ça. Des gens qui encadrent ce système-là. Et en fait, c'est peut-être un petit peu ça qui me bug, parce que le film fait bien sa job de nous montrer cet univers-là. Mais on nous montre à la fois l'univers des femmes, donc les usagers du centre, et l'univers du staff, donc des employés du centre. Et ça, on le montre, mais on le montre pas tant. Et au bout du compte, j'ai l'impression que cette réalité-là des intervenants, on nous en montre des portions, on va pas au bout du sujet, et on nous laisse vraiment sur notre faim. Donc, du côté des intervenants, j'ai pas lu le livre, probablement que le livre le fait mieux. Je pense que c'était difficile, en 1h45, de montrer la réalité qu'on retrouve dans un livre, donc les intervenants, ce qu'ils vivent, les usagers du système de leur côté. Et le cinéma ne permet pas autant de patience qu'un livre, et donc malheureusement, ça fait des scènes de découragement, d'émotion. On veut nous faire un climax avec ça, mais ça ne marche pas vraiment parce qu'on n'a pas bien préparé le terrain avant dans le film. Parce que c'est ça, on ne prend pas le temps de nous montrer ça parce qu'on est trop occupé à nous montrer l'autre côté de la médaille qui est évidemment plus intéressante dans ce cas-ci. Donc malgré tout, c'est franchement un excellent film parce que tout ce qui concerne le jeu, la réalité des femmes est merveilleusement bien amené. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que certaines des actrices sont des femmes qui ont vécu cette réalité-là de la rue. Donc, n'est pas un casting d'élite là, du cinéma. Là. C'est des gens, il y a des gens quand même connus là-dedans, mais en gros, il y a des gens là-dedans qui ont vécu des choses et le film termine avec une espèce de pseudo-casting devant un écran. En tout cas, bref, je ne vous dirai pas tout, mais en gros, ça finit un peu avec ça où on voit des répliques qui sont données et je pense qu'on s'approprie cet univers-là de cette façon-là. C'est quand même intéressant.
Donc voilà, sinon en gros, le film est très bien fait. Des petites choses au niveau du rythme, à mon goût, qui sont un peu fatigantes. Mais si je compare au film de fermeture du FCMS que Mélina avait critiqué, le Facteur Cheval, ben, moi personnellement, je pense que le rythme était meilleur dans le Facteur Cheval. Donc si on fait une comparaison, quand même, je donne un 8 sur 10 aux Invisibles. C'est un excellent film. Oui. Je vous dis, c'est touchant, c'est accessible, malgré les choses qui manquent un peu à mon goût, ou malgré les moments plus dramatiques. Je recommande ce film-là, honnêtement, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous êtes près ou loin du travail social, de cet univers-là, vous allez certainement vous plaire dans ce film-là parce que ça montre une certaine réalité du milieu là-bas. Donc en France, ce qui est intéressant, c'est similaire mais différent à la fois de ce qu'on vit ici. Donc voilà. C'était la critique du film Les Invisibles.
Merci, Jim.
Donc, il y a tout qui va pas, hein, une chanson de circonstance, parce que parfois, on va voir un film et ça va pas trop bien après qu'on sort. On n'est pas tellement content. Et donc, voilà, on va vous parler de ça. Chacun, qu'est-ce qui fait qu'un film marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'un film est un navet, qu'on l'aime pas? Des choses comme ça. Comment on arrive à cette conclusion-là? Donc, je vais arrêter de parler. On va commencer à en parler.
Des fois, quand le film marche pas, c'est juste qu'il y a un scratch derrière le DVD. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est...
François, arrête de vivre dans le passé. Les DVD, c'est dépassé.
Je sais.
Trop drôle.
Mais, oh là là. Merci François pour cet intermède. Voilà.
Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour le segment.
Excellent. Donc écoute, j'ai envie de commencer ça tranquillement. Peut-être qu'on pourrait à tour de rôle jaser de ce qui pour nous, un ou deux points pour nous qui font qu'un film est un échec. Donc un film est raté, que c'est un navet ou appelez ça comme vous voulez. Peut-être Mélina pour commencer.
Oui, ben je peux commencer. Je pense que un point qui est vraiment important pour moi quand je vois un film, c'est si les actions des personnages, si ce qui se passe est cohérent avec l'univers, donc pas nécessairement crédible, parce que, je veux dire, il y a un paquet de films...
Oui, si c'est un film de science-fiction, c'est crédible, ça. C'est difficile à, mais c'est à juger des fois.
Mais comme dans chaque film est un univers, et chaque univers a un peu ses règles, sa façon de procéder, tout ça, donc moi, j'attends de mes films une certaine cohérence. Quand il n'y a pas de cohérence, ben là, c'est sûr que je décroche automatiquement. Et là, c'est impossible pour moi d'apprécier le film parce que je fais juste me dire, ben voyons, ça n'a pas de sens. T'sais.
Donc, crédible avec lui-même.
Oui,
cohérent
avec l'univers.
Pas nécessairement. Ce que je connais, j'ai fréquenté des gens qui, eux, quand ce n'était pas réaliste, ça ne pouvait pas arriver exactement dans la vie, ils décrochaient.
Non, je suis une grande fan de Harry Potter. Je veux dire, mais il faut...
C'est pas vrai, Harry Potter. Moi, je pensais que c'était biographique.
Oui. Bon, non, okay. On est tous des moldus, de toute façon.
Ben, c'est ça. Non, mais il faut que ce soit cohérent en soi-même. Si on peut pas faire quelque chose dans cet univers-là, ben, faites-le pas, puis je veux dire, c'est ça. Je m'attends à ce que les actions du personnage aillent dans le sens de sa psychologie et pas nécessairement dans le sens de qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour faire avancer l'histoire. Donc, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans Harry Potter, c'est que les personnages, je veux dire, le nombre de fois que j'étais fâchée après Harry en lisant les livres, puis je me disais, mais voyons donc, c'est évident, mais lui, il va avec sa personnalité, tu comprends? Ouais. Il va au combat, il est courageux, tout ça, mais des fois, d'un point de vue extérieur, ça n'a pas de sens, puis tu as envie de, tu sais, comme, mais... Pour moi, ça, c'est bon, parce que les actions du personnage vont dans le sens de sa psychologie. Fait que ça, c'est deux points pour moi qui
Et c'est tellement fréquent d'avoir des comédies, puis je veux pas viser un marché précis, mais les comédies américaines... non, mais c'est où on nous donne justement une suite d'événements qui déboulent de pire en pire et ce ne sont que de mauvaises décisions prises une après l'autre, sans quoi ces décisions-là qui n'ont aucun sens dans la vie de la personne... Sans quoi, rien de l'histoire n'arriverait. Donc, on veut juste que l'histoire est dans une direction, puis on dit « Ah, ben on va faire ça à l'acteur, on va faire ça au personnage, le personnage va prendre cette décision-là, ça va l'amener à tel endroit », sans vraiment se questionner si c'est crédible ou pas, pour qu'une personne dans une situation comme ça prenne une décision comme ça.
C'est comme si on ne se penchait pas sur la psychologie du personnage, de dire qu'est-ce qui est cohérent pour lui de faire.
On ne la peaufine pas ou on n'en apprend pas. Est-ce que, François,
oui, non, mais tout à fait, des fois, tu sens que l'histoire prône sur le personnage, tu sais. Puis des fois, c'est on veut... Ah, oh, on a une idée de scénario, puis après ça, on va mettre les personnages à place que le personnage vit dans l'univers. Puis là, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. T'sais. Puis c'est pour ça que des fois, sur autant des séries télé ou des films, des fois, surtout sur quelque chose qui est sur un long terme. Ouais. Des fois, ils disent que le personnage, l'acteur est le gardien un peu de son personnage. Mm-hmm. Des fois, il va le connaître mieux que l'auteur. Puis des fois, il va aller voir...
Il va dire, moi, je pense pas que mon personnage ferait
ça. C'est ça, exactement. C'est souvent sur des séries télé, des fois, parce que c'est sur plus long terme, mais des fois aussi sur des films à plus long terme. Des fois, il se passe des trucs comme ça. Donc, je pense que ça, effectivement, c'est quelque chose, le scénario qui peut accrocher. Sinon, aussi les acteurs, évidemment, si les acteurs réussissent pas à te faire rentrer dans le film, même si le scénario est ultra bon, si l'acteur se croit pas lui-même, c'est difficile de rentrer là-dedans. Ouais. Je veux dire, moi je suis un très bon public en général, mais quand il y a des trucs comme ça, ça marche pas. Parce que des fois, quand le truc est mauvais en général, ça devient un bon film parce qu'il est mauvais.
C'est vrai?
Comme ouais, mais là, ça ouvre une autre, ça ouvre une autre sphère. Là, à partir de quand un mauvais film devient bon?
Devient bon parce qu'il est mauvais.
Mais ça, c'est une sous-culture.
Ouais.
Je suis pas convaincu que ça s'adresse à un public global. Après ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Mais on s'est souvent posé la question à Cinébrunch. Pour qui on fait des films?
Oui,
pourquoi?
Exactement.
Est-ce qu'on fait des films pour qu'un maximum de personnes soient touchées par notre idée, par notre volonté ou peu importe? Ou on fait des films pour une toute petite portion de la population, que ce soit une élite intellectuelle du cinéma qui va à Cannes voter, ou que ce soit...
mais des fois, ces flops-là, des fois, c'est pas voulu.
Ben, c'est ça. Mais moi, j'ai remarqué que beaucoup de films qui étaient très mauvais à l'époque sont devenus des films cultes.
Oui.
Donc, le temps a permis ça. Ouais. Maintenant, il existe des films plus récents qui ont, ils ont une réputation d'être des films qu'on regarde souvent parce que, ah oui, on regarde ça parce que c'est trop mauvais. OK, moi, j'avoue que je suis pas très fort sur cette sous-culture-là, mais je la comprends. Par contre, est-ce que ça, c'est général? Est-ce que ça, c'est représentatif du cinéma? Est-ce que le but, quand on critique un film ou quand on fait un film, c'est de faire un film souvent mauvais pour qu'il redevienne bon ou c'est de faire bon dès le départ?
Non, c'est sûr. Je pense pas que c'est de viser, effectivement, le côté que c'est mauvais. Mais c'est juste que des fois, le fait qu'on dit que c'est mauvais, c'est parce qu'il a pas réussi à prendre la bonne cible. Si le réalisateur pense faire un film dramatique, puis qu'au final, ça en vient drôle parce qu'on dirait que c'est une parodie.
Ouais.
Mais au final, toi, si tu t'en vas là en disant c'est une parodie, tu vas rire et tu vas dire c'est un excellent film. Pis je pense que c'est pour ça qu'un mauvais film devient un bon film. C'est juste que tu changes la cible. Il y a des films qui sont capables que si mentalement tu changes la cible pour laquelle tu vas voir ce film-là, ça va devenir un bon film dans une autre sphère. Mais c'est pour ça qu'il y a des films qui réussissent juste pas à trouver une bonne cible. Et là, je pense que là, ça devient des mauvais films.
Ça devient des mauvais films.
Des vrais mauvais films. Mais je pense que c'est là qu'ils peuvent pas rentrer dans la sous-culture. On parle de The Room, qui est devenu un film monumental.
Le film culte. C'est ça, les mauvais films.
Il y a combien d'entrevues, combien d'heures de documentaires sur ce film-là?
Il y a même un autre film qui a été fait.
Et lui, il se croyait dans le sens où il pensait faire un bon film. Il voulait pas faire un mauvais film. Mais pourtant, après ça, il pensait faire un bon film dramatique.
Oui.
Et c'est devenu un bon film comique.
Et dans le film,
c'est là qu'on voit qu'on n'a pas nécessairement tous un talent pour la réalisation.
Mais oui, tout à fait. Et après, pour le jeu d'acteur aussi.
Tant mieux si ça s'est bien déroulé, mais pour le jeu, il y a le coaching d'acteur aussi.
Oui, tout à fait.
L'organisation. Parce que là, tantôt, vous parliez d'acteurs qui ne rentrent pas. Le truc, je suis 100% d'accord, quand l'acteur ne vit pas son personnage, quand on ne le sent pas dans son personnage,
ça peut rater un scénario.
C'est vraiment mauvais.
Mais des fois, ce n'est pas juste l'acteur, c'est comment le réalisateur va approcher l'acteur.
Je pense que c'est rarement la faute de l'acteur. À moins, parce que à part... Puis même là, le choix de l'acteur à la base est une décision...
C'est du réalisateur.
En tout cas, de la production et de la réalisation.
Moi, j'avais beaucoup aimé, à un moment donné, c'était sorti en entrevue dans le cas de Harry Potter, le premier réalisateur, les jeunes étaient très jeunes, là, Ron, Harry, Hermione, et il leur avait donné un devoir à faire qui était comment chacun de leurs personnages percevait l'école. Et Rupert Grint, qui joue Ron, a juste pas fait le travail. Et il a dit au réalisateur, ben, mon personnage n'aurait pas fait ce travail-là.
Oh, c'est excellent. Wow.
Et c'est exactement ça. Et c'était ça parce qu'il avait compris la psychologie de son personnage. Mais c'est ça.
Sacré Ron.
Mais pour ça, il faut que ce soit clair, la psychologie du personnage.
Oui, faut être bien encore.
Mais effectivement, des fois que le réalisateur va donner des directives, que l'acteur va dire « Moi, je ne serais pas d'accord avec ça », mais c'est le réalisateur qui décide. Puis, même si tu fais la scène que toi, tu penses qui est bonne, au final, il ne va pas la garder au montage. Je veux dire, tu sais, peut-être que le réalisateur va dire « Moi, non, c'est celle-là
ça, c'est un fait
que,
aussi.
Que
je trouve pas des décisions bonne, de montage aussi.
Ça peut être des décisions
peut-être
de montage.
Peut-être que pour des raisons techniques, on n'a pas le choix de prendre le plan ou la take qui est pas bonne, la prise qui est un peu moins bonne
parce que la personne qui donne la réplique
ou le script n'a pas fait sa job. Il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte qu'un film va se rater. C'est pour ça que ça coûte si cher à faire un film, parce qu'il y a toute une infrastructure
avec énormément de gens pour empêcher que ça se produise. Mais ben, ça se produit quand même des fois.
Oui.
Mais OK, fait que, mais au niveau des acteurs, moi, je suis d'accord.
Oui.
Mais je pense que la responsabilité, comme Milena l'a dit, très, très, très dans la cour du réalisateur et du producteur, des producteurs
mais
aussi.
Mais ça dépend. Parce que, effectivement, des fois, c'est plus les producteurs parce que des fois, ils se font imposer les choix d'acteurs.
Oui, oui.
Puis, après, le coaching, ça demeure bon.
Oui, mais...
Le réalisateur, il peut dire non.
Oui, mais des fois, c'est déjà... C'est tellement long de faire un film dans le sens où tu fais une scène, puis comparativement à une série télé où tu le filmes, puis tu le fais une fois ou deux, puis après ça, tu t'en vas. Il y a tellement de... Tu le refais 15 fois la même scène.
Ah oui, faut qu'elle soit parfaite, parce qu'on ne retourne pas là.
Ben exactement, il faut qu'elle soit parfaite.
Ah ouais.
Puis des fois, tu vas avoir tellement de plans de caméra que tu vas la refaire avec... tu changes tes plans de caméra constamment. Fait que si l'acteur est difficilement capable de jouer son rôle,
mais
ben là, de leur coacher 15 fois pour que sur les 15 angles différentes pendant la scène, qu'il soit capable de, sur toutes les scènes, d'être crédible, ça reste difficile. T'sais. Déjà qu'il y a d'autres choses à faire, le réalisateur, là, il faut qu'il check ses plans et qu'il pense à tout le restant. Ça reste difficile. Fait que des fois, si un acteur n'est pas bon, ça va se transparaître quand même, même si le réalisateur est capable de le coacher. À un moment donné, il y a quand même une limite.
Mais il y a une autre difficulté aussi que je vois pour les acteurs, c'est que très fréquemment, on ne tourne pas dans la continuité. Donc, il y a aussi un travail supplémentaire pour l'acteur de se dire, on est rendu où dans le film quand on fait cette scène-là? Cette scène-là où je suis en train de manger mes céréales à la table,
ouais, ça se passe après quoi? Dans la situation, c'est ça. Ah, c'est je viens de me faire laisser par ma blonde, tu sais, ou non, je suis stressé parce que t'as la faim.
Puis des fois, on n'a pas le reste du film.
Qui sont là, mais...
Des fois, non plus, un petit rôle qui va arriver pour deux scènes seulement. Ben là, il va dire, je joue avec un personnage. Tu vas avoir lu peut-être 3-4 scènes du film. Mais là, tu dis, je joue avec quelqu'un.
Je pense que tu parles par expérience,
François. Oui, des fois. Oui, tout à fait. Mais tu comprends pas nécessairement l'autre personnage est dans quelle psychologie. Parce que toi, tu vas dire, ben oui, mais ton personnage n'est pas dans le restant du film. Certes, mais toi, tu veux comprendre ce qui se passe alentour de toi pour être capable de bien réagir aussi. Il y a ça aussi qui n'est pas toujours facile. T'sais.
C'est quand même complexe. Donc,
ce qui était intéressant, puis pour ne pas ramener Harry Potter encore une fois, il y avait certains personnages, comme notamment l'acteur qui jouait Severus Rogue, qui était au courant que J.K. Rowling a rencontré personnellement pour lui dire...
Savoir comment son personnage avait
fini. Oui, parce que les films ont commencé, les livres n'étaient pas terminés.
C'est ça. Ouais,
donc, lui n'avait pas l'histoire complète de son personnage. Il n'avait pas tout le... Parce que Rogue joue finalement un agent double, mais on ne l'apprend que dans le 7e.
Ne dévoile pas tout ça.
Ben non, mais là, écoutez, ça fait plus que 10 ans, là, vous vous en remettrez. Non, mais je veux dire, il fallait que lui soit au courant, mais le livre n'était même pas encore écrit. Mais elle savait tellement où elle s'en allait avec cette histoire-là qu'elle a pu dire à son acteur, ben pas à son acteur, je veux dire, parce que c'était pas le créateur, mais à l'acteur, ben écoute, ton personnage, c'est ça la vérité.
Je comme ça,
ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour beaucoup de licences de films et de trucs où on crée des suites qui ne sont pas basées nécessairement sur les livres, où on dépasse des fois les livres aussi.
Ouais.
Donc, mais tout ça est bien. Maintenant, bon, on a parlé des acteurs, on a parlé de trucs. Mm-hmm. Maintenant, comment vous arrivez à la conclusion qu'un film est mauvais? C'est quoi vos critères? C'est quoi votre... Qu'est-ce qui fait que... Où on perd le plus de points, finalement?
Mais moi, je vais y aller. Là. Moi, je dirais dans le scénario parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu cette semaine. Parce que si on prend une grille d'évaluation d'un film, là, le scénario, il compte pourquoi à 2 points, par exemple, mettons sur 10. Là. Mettons, je suis gentille. 1 point sur 10. Mais...
Moi, je me donnerais plus que ça. Là,
mais si, peu importe, si le scénario est mauvais, pour moi, même si tout le restant du film va chercher tous ces points, les acteurs sont bons, comme j'ai vécu tantôt, les acteurs étaient bons. Si j'avais suivi une grille d'évaluation normale de film, c'est sûr que je ne serais pas arrivée à un 1 sur 10. Je serais arrivée peut-être à un 7 sur 10 parce qu'il n'y avait que le scénario qui était vraiment pas bon. Mais pour moi, ça teinte tellement le film parce que c'est mon expérience globale qui s'en trouve affectée. Donc, c'est pas comme « Ah, ben il y avait une mauvaise photographie. » Je veux dire, les plans n'étaient pas nécessairement beaux. Il y avait des erreurs. Oui, bon, on s'en remet de ça. Je veux dire, si la composition de l'image n'est pas magique, on s'en remet. Là.
Ben oui, mais je suis pas 100% d'accord avec toi personnellement parce que je pense que parfois, le scénario n'est pas à la hauteur. Et juste par la qualité du jeu, par la qualité de la réalisation et du montage, on peut avoir un beau moment.
Oui, si le scénario n'est pas à la hauteur.
Oui,
mais
c'est ça.
Là, moi, je te parle d'un scénario qui est vraiment mauvais, que n'importe quel acteur ne peut pas réussir à rendre bien son scénario. Tu sais,
il y a un niveau, ça dépasse. Ça peut être épouvantablement mauvais aussi. Toi, François,
est-ce que moi, je regarde plus ce que j'ai réussi à sortir de la salle de cinéma. Pour moi, c'est ça.
Ce que j'ai réussi à en sortir. Avec quoi tu pars, le bagage.
Oui, exactement. Si je réussis à quitter le film puis dire... C'était tout très mauvais, mais j'ai eu un 5 minutes. Non, mais j'ai eu un 5 minutes où c'était des belles images, puis ça m'a
du plaisir.
C'est venu me chercher. ben je vais dire ok, ben c'était peut-être un mauvais film mais moins pire, tu sais. C'est moi c'est vraiment ce que je réussis à ressortir de ça en me disant ben ok, peut-être que le scénario était mauvais mais j'ai aimé les faces qu'il a faites dans le film, tel acteur. Ben
oui, le funeste c'était drôle.
Oui, c'est ça, tu sais, j'ai réussi à sortir, était pas bon, mais... c'est ça, j'ai réussi à sortir quelque chose de ce film là. Ouais. Donc je vais me rappeler de quelque chose de ce film là. Il y a des films que je sors que je suis comme je vais me rappeler de rien de ce film là. Ouais. Il passe tellement sous le radar
puis on en voit tellement en plus.
Ben oui, c'est
fait ça. Que ceux dont c'est on se souvient,
je sais
on
que...
s'en souvient.
C'est ça. C'est, ça. Fait que c'est pour ça que des fois, tu dis, même s'il y a plein de trucs sur une grille, je dirais c'est mauvais, mais au final, il va mettre... ce film-là m'a marqué, tu sais, pour
un certain nombre de raisons. D'accord avec toi. T'sais. Moi, j'ai adoré Tremors 2, et pourtant, c'est un des pires films de tous les temps.
Je sais pas de quoi tu parles, mais Jim, tu pourras confirmer avec moi le nombre de fois que ça nous est arrivé de sortir d'un film, et si on l'avait noté sur le champ, on lui aurait donné une très mauvaise note, et finalement...
il continue d'évoluer.
C'est ça, il travaille dans ton cerveau, le lendemain, trois jours après, finalement,
c'est ça,
wow,
c'est un
ce
bon
film-là,
film.
C'est ça.
C'est d'être capable de...
Laisser évoluer le film.
Oui, c'est ça. Puis de partir avec toi. Si un film n'est pas capable de partir avec toi, ben pour moi, ça, c'est un mauvais film. Oui,
je suis d'accord avec toi. De mon côté, je vais vous dire, parce que ça touche un peu le point de François, moi, c'est un peu différent. C'est pas nécessairement avec quoi je pars, c'est ma capacité à rester dans le film. Donc, mon immersion, immersion pendant le film. Pour moi, ça a toujours été mon critère pour dire un film est bon ou est pas bon. Et là, je vais te parler peut-être de l'inverse, de pourquoi je sors de mon immersion. Et en général, si dans un film, on me donne quelque chose et que je n'embarque pas du tout et que je décroche complètement parce que c'est soit pas du tout crédible, soit incohérent avec l'histoire, mais très souvent parce que c'est une métaphore boiteuse ou parce que c'est un raccourci absolument atroce qui est pris pour simplifier le travail soit du scénariste, du réalisateur ou de peu importe. Ça me décourage. Quand je commence à soupirer dans un film en général, c'est pas bon signe. Puis il en arrive un, il y a toujours un deux, un troisième moment après dans le même film. Quand on commence à aller là-dedans, en général, là, les raccourcis, il y en a. Et ça, je trouve que c'est totalement répréhensible. Il faudrait rétablir, peut-être pas la peine de mort, mais la prison à vie pour les gens qui font des films comme ça.
Quand même.
Non, moi, ça m'insulte parce que, bon, OK, nous, c'est certain, on a un statut particulier, on peut voir des films autant qu'on veut, tout ça, mais la vérité, c'est que les gens... payent pour aller voir un film.
Oui, tout à fait. Des fois, ils mettent les enfants à la garderie, ils vont, tu sais, ça reste un moment. Mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, c'est la logistique loin que je pensais. Non, mais
des fois, tu vas voir le resto, justement, des fois, ça
c'est ouais, j'avais pas vu ça comme ça.
Des fois, tu dis, je vais voir un film ou deux par année, tu le choisis, tu dis...
Paye ta gardienne, c'est rendu cher, les gardiennes, c'est quoi, 50 piastres de l'heure? Ça te coûte 100 piastres pour 2 heures?
Mais vous débordez.
Non, mais c'est vrai que tu dis, c'est quand même intense comme moment dans ma semaine, puis là, si t'arrives là, puis le film, ils l'ont bâclé,
ben, décevant,
ça scrape la soirée.
Mais moi, je le voyais plus dans le sens où on paye pas à la fin du film si on aimait ça. Il n'y a pas de pourboire quand on va voir un film. On récompense donc les films en y allant. Donc, si la croche est bonne, si la bande-annonce est bonne, si les gens ont aimé ça autour de nous, les critiques, tout ça. Et c'est ça qui fait qu'on va voir un film et que ces gens-là vont avoir de l'argent. Ouais. Et moi, ça me dérange. Ben non, je veux dire, j'ai pas l'intention de changer comment ça fonctionne, mais ce qui me dérange, c'est que quand on fait des raccourcis comme ça, qu'on s'en passe, on en passe des petites vites parce qu'on s'en fout, puis rendu là, de toute façon, c'est le troisième de telle série, puis les gens vont venir pareil parce qu'ils ont vu l'autre, puis c'est la suite. Ouais. Moi, ces affaires-là, ça m'énerve. Puis je trouve ça tellement insultant que ça, c'est là où j'enlève le plus de points. Parce que je pense que c'est même pas juste de ne pas donner de points, c'est de pénaliser le film pour avoir commis un acte comme ça. Et en restant dans le même thème, je vais vous laisser parler après, mais je pense à deux films qui sont complètement absurdes. Premièrement, Skyscraper, le film de... avec Dwayne Johnson, The Rock, où il escalade une tour, puis en tout cas, le feu pogne, il va sauver sa famille, puis tout ça. Ce film-là n'a aucun sens, absolument aucun sens. Ce film-là, c'est un amassis de raccourcis qui n'ont aucun sens, juste pour mettre The Rock dans un film, sachant que ça va être payant. Wow. Le problème avec ça, c'est que en encourageant un film de grosse production comme ça qui va faire beaucoup d'argent, on encourage les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs à en faire plus de mauvaise qualité.
Oui,
c'est
mais
ça le problème.
Tu sais pas qu'un film va être mauvais avant d'aller le voir. C'est un peu ça le problème.
Je pense que quand ils ont sorti ce film-là,
il savait que ça s'en allait pas à Cannes, je vais te le dire. Puis l'autre film, rapidement, que je voulais parler, c'était le
Raccourci dans le temps,
qui là met des métaphores religieuses à peine dissimulées, mais ce film-là ne s'assume pas. Ça, j'ai trouvé ça bas, et honnêtement, l'histoire n'est pas fameuse non plus, il ne se passe pas grand-chose là-dedans, mais les images sont magnifiques.
Il prenait quelques raccourcis aussi.
Il prenait beaucoup de raccourcis dans le temps. Bref, c'est ça. Mais je vais vous laisser parler les quelques minutes qui restent, parce que voilà, hein, c'est ça.
Oui, tout à fait. Mais non, mais c'est intéressant. Pour vrai, c'est... Parce qu'effectivement, on ne veut pas encourager tout le monde à faire ce genre de truc-là. Puis... Mais des fois, les raccourcis... Tu sais, des fois, un mauvais film, tu dis, comme tu viens de dire, c'est comme une grosse production qui voulait faire du cash. Tu sais, des fois, tu sens que c'est juste une grosse production qui était comme, on va faire du cash anyway. Mais des fois, tu sens que c'est juste de l'inexpérience ou du, la maladresse ou ce nombre de trucs. Mais puis c'est pour ça que... Ce que je trouve intéressant, des fois, je sais pas s'ils font ça aux États-Unis depuis longtemps, mais au Québec, je sais qu'on fait ça des fois pour les comédies. Ils vont maintenant présenter les films avant même de les sortir en salle pour retourner en montage et couper des blagues ou rajouter des blagues pour essayer de savoir un petit peu le pouls du public.
Ils essayent, puis après ça, ils vont modifier le montage, comme un pré-montage.
Comme un humoriste qui va rider des jokes.
Ou la publicité, où on regarde les gens où ils regardent. Dans la...
Puis écoute, pour une comédie, je trouve ça excessivement intéressant de dire justement, écoute, on va le tester avant, on peut se tromper, c'est une science, hein? Puis c'est bien difficile, on peut facilement se tromper, donc ça, je trouve ça vraiment quelque chose d'intéressant.
Ouais. Et le mot de la fin, Mélina?
Ben, je pense que c'est un sujet dont on pourrait continuer à parler définitivement longtemps. J'aurais aimé ça qu'on aborde les mauvaises comédies, parce que François, tu fais des blagues, donc tu aurais pu me dire pourquoi une blague fonctionne pas, donc peut-être pour une prochaine fois.
Oui, une prochaine fois, tiens, les mauvaises comédies.
Ouais.
Ah, voilà, avec François Genet.
Oui, je me sens visé, le mot doux, on va m'associer aux mauvaises comédies.
François Genet, le Kino Show, c'est bientôt?
Oui, c'est le 29.
Alors,
mai, tout à fait.
29 mai. Allez-y tous en grand nombre.
Le dégel.
Et nous, on se retrouve dans deux semaines parce qu'on prend congé pour donner la place au Radio Don de CFLX qui aura lieu donc samedi. Et voilà, c'est tout pour Cinébranche cette semaine. On se retrouve dans deux semaines. Merci à tous.
Bonne semaine.
Bonne semaine.